Bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais porter une petite méditation avec comme titre de message la foi selon Abraham. Je vous propose une première lecture d'introduction dans le livre des Hébreux au chapitre 6 et du verset 10 à 15. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous unissiez qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer que par un plus grand que lui, il ne jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Dans le livre de ce passage, eh bien, je me suis dit que ce serait plus intéressant ce matin. On s'attend sur certains éléments de la vie d'Abraham. Et justement de voir que les personnages de la Bible sont loin des héros inatteignables, mais des hommes et des femmes fragiles, avec leurs imperfections, avec leurs erreurs. Et pourtant, ils sont montrés comme des exemples de foi dans la Bible. Alors, ce matin, je vous propose de m'arrêter sur quelques-unes des tranches de vie d'Abraham et d'essayer de voir, ensemble, quelle leçon on peut tirer pour nos vies aujourd'hui. Bien sûr, je ne vais pas voir toute la vie d'Abraham, mais juste quelques focus sur certains éléments. Premièrement, eh bien, je vais m'intéresser à ce que j'ai appelé la vocation d'Abraham. Alors, pour ceux qui ont déjà lu un peu la Bible, qui ont déjà eu une petite éducation religieuse, connaissent tous le passage de la Genèse. Dans Genèse 12, verset 24, il est écrit : L'Éternel dit à Abraham : Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras comme le souffle qui le bénéficie. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Haran. Alors, quand on lit ce passage, on a l'impression qu'Abraham, reçu un appel de Dieu, et qu'il est parti, aussitôt, laissant tout derrière lui. En fait, si on les regarde un peu plus près, on constate plusieurs choses. La patrie de la famille d'Abraham n'était pas du tout Haran, mais, en fait, c'était Ur en Chaldée. Lorsqu'on lit les chapitres qui précèdent le chapitre qu'on vient de lire, donc dans Genèse 12, et bien en fait on voit que c'est son père, Terach, qui des années auparavant avait quitté la Chaldée, actuellement en Irak, là vous avez la carte, il a quitté la ville de Ur, vraiment tout en bas, parce que vous avez le pour venir s'installer dans l'actuelle frontière entre la Turquie et la Syrie. Charon est situé actuellement en Turquie. Et justement, il s'est retrouvé à la proche du pays de la promesse, qui s'appelle le pays de Canaan, et qui correspond à l'Israël actuel. Et quand on a lu dans Genèse, justement, chapitre 27 au 31, il est écrit : Voici la postérité de Terach. Terach engendre Abraham, Nachor et Aram. Avant entra dans Enjolras, et Aaron mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa distance, à Ur-en-Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Aaron, père de Milca et père de Milca. Sarai était stérile, elle avait trois enfants. Terah fut Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai fut belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur-en-Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et les habitèrent. Terah fut le père d'Abraham, décida donc de quitter sa ville natale pour monter très loin au nord, soit un périple à peu près de 1100 km. 1100 km, aujourd'hui, ça ne paraît pas trop loin, mais à l'époque, c'était une sacrée expédition. Et alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a poussé Terah à partir si loin? Est-ce qu'il a vu une révélation de la part de Dieu? Et si jamais il a vu cette révélation, ça veut dire quoi? Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, Abraham aura eu le mérite de poursuivre l'œuvre de son père. Et Terah, de son côté, eh bien, il aura été capable de transmettre à son fils sa vision, et justement, cette capacité à transmettre cette vision, eh bien, c'est vraiment le signe d'un être spirituel. Ou bien, peut-être que Terah n'a eu aucune révélation de Dieu, la Bible ne nous dit pas. Mais Dieu a permis, à travers les circonstances, de permettre à Abraham de se rapprocher de la destinée que Dieu lui avait tracée. Et déjà, à ce moment-là, il faut reconnaître qu'il en est de même pour nos vies. Parfois, on peut avoir l'impression que le seul mérite nous revient. Alors que souvent, bien sûr, on hérite aussi bien, il n'en est rien. Notre éducation familiale, l'école où on a pu aller, les membres de notre famille qui ont prier parfois au secret avec ferveur pour nous, tant d'éléments qui ont pu jouer sur notre destinée et faire que nous sommes là aujourd'hui. Et combien nous devons être reconnaissants, justement par rapport à nos familles, par rapport aux circonstances de la vie, qui fait que nous sommes là aujourd'hui et qu'un jour on a pu accepter. Une autre réflexion que l'on peut faire sur ce passage, c'est qu'en fait, Dieu ne nous demande pas des choses qui pourraient être au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Si Dieu avait dit à Abraham de partir loin de sa famille, lorsqu'il était à Ur-en-Chaldée, il n'est pas sûr qu'il serait parti aussi loin dans un pays aussi long. Mais déjà, parce que Terah avait fait une partie du chemin, eh bien déjà, ça a permis de rendre la mission moins difficile, moins lourde. De même, lorsqu'on relit le texte, on s'aperçoit que Dieu doit apprendre de quitter Aaron après la mort de son père. Dieu ne nous demande pas de tout quitter, de nous séparer de nos familles, de laisser derrière nous nos parents seuls, je ne pense pas. Et justement, après la mort de son père, Abraham aurait peut-être aussi tenté de revenir en Irak, de retourner justement à Ur-en-Chaldée, parce que c'est là-bas qu'il y avait tout le reste de sa famille. Et c'est justement à ce moment-là que Dieu lui parle et lui demande d'aller au pays de Canaan. Enfin, je ne pense pas que c'est une décision facile pour Abraham de partir sans savoir exactement où il allait aller. En entraînant avec lui sa femme, son bosom, son bétail et tout ses biens. Je pense qu'il a dû être tiraillé, se demander est-ce que c'est réellement Dieu qui lui a parlé? Est-ce que ce n'est pas le fruit de mon imagination? Et qu'en fin de compte, je ne peux pas déçu, on dirait aujourd'hui. peut-être qu'Abraham a ressenti ce sentiment de se retrouver au bord d'un précipice, de devoir sauter dans le vide, de perdre tous ses repères. Et puis, la question qu'il a dû se poser, c'est est-ce que sa famille voudra-t-elle le suivre cette aventure, sans savoir exactement où il allait? Imaginez-vous, Abraham qui dit à tous ses amis, sa femme, à toute sa famille, c'est là, bon, allez, on se met en petit bagage, on part. On va aller, on s'y part, on part. Imaginez-vous un petit peu les discussions qu'il a dû avoir entre eux à ce moment-là. Le deuxième point sur lequel j'ai envie de partager par rapport à ce passage d'Abraham, c'est que le chemin de Dieu est un chemin parsemé d'embûches. Et j'ai remarqué qu'il arrive que les chrétiens, quel qu'ils soient, lorsqu'on relève les passages de leur vie, vous prétendez que tout en roulant sur des bêtes, sur un tapis blanc, sur une autoroute, et qu'il n'y a eu aucun souci. Et que justement, parce qu'il n'y a eu aucun souci, eh bien, ça veut dire que c'est le fruit d'une bénédiction de Dieu. Mais ça, la Bible ne nous donne aucunement cette enseignement-là. Et si on reprend l'histoire d'Abraham, eh bien, on peut lire justement dans Genèse chapitre 12, versets 5 à 10. Donc, Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Canaanites étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtira un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là dans la montagne à l'orient de Bethel, et il drapa sa tente entre Bethel à l'occident et Maï à l'orient. Il bâtit encore un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, nous avançons dans le midi, et il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici Abraham arrivé dans l'histoire actuelle. Ça y est, il est arrivé dans le pays de Canaan. Il est dans la bénédiction. Et à peine arrivé dans le pays, il y a une famine, plus rien à manger. Imaginez-vous la situation d'Abraham. Il est convaincu d'être dans le plan de Dieu, que là il s'est décidé, et à peine arrivé, une famine s'abat sur le pays. Et là je suis sûr que sa femme, son neveu, tous ceux qui avaient vu, ont dû tout se dire, mais que faisons-nous ici? C'est ça ta bénédiction? On est venu ici pour mourir, mais pourquoi on t'a tué? Si c'était de Dieu, on ne serait pas dans cette situation, etc. Et là, Abraham, eh bien, décide de partir en Égypte pour échapper de la famine. A-t-il manqué du foin? Aurait-il dû rester au Canaan? Fallait-il rebrousser le chemin? La Bible ne nous le dit pas. La seule chose que l'on sait, c'est qu'en Égypte, eh bien, d'autres soucis l'attendaient aussi. Et sur le récit d'Abraham, eh bien, qu'on rappelle d'autres. Par exemple, le récit de David. Si vous connaissez un peu plus votre Bible, David, eh bien, Samuel, qui était un prophète, est envoyé par Dieu et vient de la famille de David pour le bénir et le rendre comme le futur roi d'Israël. Lui qui était juste un jeune berger, il y a quelqu'un qui vient comme le grand prophète d'Israël, vient chercher un roi, on le met, lui, on me dit, qui va être le roi d'Israël? Imaginez-vous qu'on vient vous voir, on vous dit, vous êtes le prochain président de la République. Il y a de quoi être un peu abasourdi. Et par la suite, eh bien, David va réaliser un acte héroïque en tuant le géant Goliath. Et commence justement à devenir célèbre en Israël. Et là, on se dit, ça y est, c'est bon. Il va devenir le prochain roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi Saül décida de le faire mourir. Et David a dû s'enfuir. Et il a vécu comme un paria pendant des années avec des brebis. Et là, je suis sûr qu'il a dû se dire, mais c'est quoi cette promesse que j'ai eue que j'allais être le roi d'Israël? Combien de fois il a dû se poser cette question en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Le chemin de Dieu n'est pas notre route. Un dernier exemple que je voulais vous rappeler, c'est celui de la naissance de Jésus. On connaît tous le récit de Jésus qui est dans une crèche. Et là, les bergers viennent l'adorer. Des mages même viennent lui apporter des présents dignes d'un roi. Et ses parents ont dû croire à ce moment-là que Jésus allait devenir le nouveau roi d'Israël. Il allait être le Messie promis, celui qui allait régner sur Israël. Mais il en fut tout autrement. Puisque le récit raconte que Hérode, qui était à l'époque le roi, eh bien, décida de tuer, comme il ne savait pas qui il était exactement, eh bien, décida de tuer et de massacrer tous les garçons de la région de Bethléem. Et la seule solution a été pour les parents de fuir en Égypte. Et par la suite, lorsqu'ils sont revenus en Israël, de s'installer, non pas dans leur région natale, mais d'aller dans une autre région, justement, qui était la Galilée. Ces différents exemples, eh bien, nous montrent que les plans de Dieu ne sont pas des lenteurs tranquilles, ne sont pas des autoroutes. Il faut reconnaître que parfois, notre foi peut vaciller. Quand nous considérons notre environnement par rapport à cette conviction intérieure que nous avons vis-à-vis d'une destinée qu'un chemin nous aurait, que Dieu nous aurait insisté. Et c'est justement alors qu'intervient la foi. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut rester accroché aux promesses de Dieu. Non, Dieu ne nous laisse pas tomber. Mais nous ne devons pas laisser sa main. Même si tout semble sombre, sans issue, Dieu prépare toujours une solution. Alors, bien sûr, ce n'est peut-être pas toujours celle que nous voudrions, qu'on espère, mais pourtant, Dieu a l'action. Et le problème, souvent, dans notre foi, dans notre vie chrétienne, c'est que nous nous regardons avec nos yeux, avec notre intelligence, qui, l'un comme l'autre, sont limités. Dieu nous voit autrement. Dieu voit avec un regard qui va au-delà du temps et des circonstances. Et ce qu'on ne peut jamais oublier, c'est que Dieu a surtout pour nous des projets éternels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Pour notre salut. Ne l'oublions pas. Notre destinée, elle est avant tout éternelle. Le troisième point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la vie d'Abraham. C'est Abraham et la vérité. Alors, nous allons poursuivre le récit dans Genèse chapitre 12, juste à partir du verset 12 jusqu'au début du chapitre 13. Comme il était très entré en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma femme, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham s'est arrivé en Égypte, les Égyptiens dirent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. La femme qui est amenée dans la maison de Pharaon ne trouve pas bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'esprit de ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches de midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ce que nous voyons ici, c'est qu'Abraham avait une conviction particulière de la vérité. Sarai était sa demi-sœur, certes, mais elle était sa femme. Alors, de vous, qu'est-ce qui a conduit Abraham à ne pas dire la vérité? Il a conduit à ne pas dire la vérité, c'est la peur. Et la peur est un sentiment terrible. Est un sentiment tellement prégnant qu'il peut aller jusqu'à nous faire perdre la foi. La peur nous amène à imaginer des scénarios terribles. On pense alors que le mensonge va nous préserver et qu'elle va être un pansement vis-à-vis de cette peur. Et puis nous allons de mentir parce que nous ne sommes pas en confiance. Parce que nous sommes dans un climat d'insécurité. Parce que nous avons peur du regard de l'autre, de ce qu'il va penser, de ce qu'il va s'imaginer sur nous. On a peur du qu'en dira-t-on. Alors on est prêt à mentir. On est prêt alors à ne pas être vrai. Et la peur d'Abraham va jusqu'à donner sa propre épouse à un autre homme. Le mensonge peut nous amener à réaliser des choses inimaginables. Le plus terrible ici, c'est que celui qui ment, il s'en sort bien. Il reçoit des animaux, des biens, tandis que la victime du mensonge, le pharaon, se retrouve malade. Et c'est en cela que le mensonge est un piège. Le menteur a toujours l'impression que tout lui sourit, que tout va dans son sens. Et sa conscience s'endort petit à petit. Et il continue à mentir. Et il s'enfonce davantage dans son mensonge. Pourquoi ne pas continuer puisque tout s'arrange? Je suis béni. Abraham dit les biens. Je suis dans la bénédiction. J'ai tout. Il y a tout qui m'arrive. Et pourtant, il est dans le mensonge. Et c'est en ça que souvent le mensonge est un piège. Mais sachez cependant que ce qu'on sème, on le récolte. Parce que le mensonge d'Abraham l'a conduit à avoir des esclaves égyptiens. Et parmi ces esclaves égyptiens, il y a une femme qui s'appelle Agar. Et cette femme causera pas mal de troubles par la suite dans la vie d'Abraham. Alors, si tout d'un coup vous prenez conscience que vous avez tendance à jouer avec la vérité, je vous encourage à dire la vérité. Ou alors, de faire comme Abraham. En effet, quand on regarde la fin du passage dont je vous ai parlé, nous voyons qu'à la fin de cet épisode, Abraham est revenu à Bethel pour offrir un sacrifice à Dieu et pour s'adresser à Dieu. Et nous aussi, nous nous devons remettre à celui qui s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ est le seul par lequel nous pouvons obtenir le pardon. Ce matin, si vous prenez conscience que dans votre vie, le mensonge est venu comme un filet, vous a enlevé. Priez à Jésus-Christ pour qu'il vous délivre de ce filet. Le quatrième élément sur lequel je voulais vous parler, c'est aussi, c'est être la propre réponse à votre prière. Au chapitre 15 de la Genèse, Abraham reçut la promesse qu'il aurait une descendance. Il est écrit : Alors la parole de l'Éternel s'est adressée à lui. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir connu dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel. Qui le lui imputa en justice. Alors, devant cette promesse, on pourrait penser qu'Abraham attendrait patiemment l'accomplissement de ceci. Mais malheureusement, les humains sont impatients. Notre vision est limitée. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous cherchons souvent à répondre nous-mêmes aux prières que nous faisons. Et ici, ce qui s'est passé, c'est quand Abraham a dû partager avec son épouse la promesse que Dieu lui avait faite, Sarah, voyant que cette promesse ne s'accomplissait pas, elle a qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente une servante, l'égyptienne, Agar, pour qu'il aille vers elle. Et pour fait, elle a un enfant par elle. Sarah voulait d'inventer le principe de la mère porteuse ou de la grossesse pour autrui. Et nous posons la question : combien de fois ne soyons pas la propre réponse à nos prières ? Combien de fois on veut forcer le destin. On n'est pas prêt à tout prévoir. On est prêt à tout pour obtenir quelque chose. Et au lieu d'attendre le moment favorable, le moment de Dieu, et bien on prend sa place. Et comme nous sommes limités, que notre intelligence est limitée, que l'on ne voit pas plus loin que vous maintenez, et bien qu'est-ce qui se passe? On se plante. À côté du vrai plan de Dieu. Et qui se passe, c'est qu'on se trouve souvent des problèmes qu'on aurait pu éviter. Une autre personne qui avait un autre exemple biblique de quelqu'un qui a compris la prière, c'était justement David. C'est vrai que quand David a eu cette promesse qu'il allait devenir roi, quelques temps après, donc il y a eu la guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël, et justement il y a cette scène avec le Goliath qui justement demande à ce qu'un héros d'Israël vienne combattre contre lui. Et David, quand il est allé apporter la nourriture à ses frères, qui étaient sur le front, il a entendu ce qui se passait. Et pourtant, il a entendu une chose. Saül a fait la promesse que celui qui abattrait Goliath, il lui donnerait sa fille. Et je suis sûr que dans la tête d'Ali, il dit : ça, c'est moi, ça. Si je veux devenir le futur roi d'Israël, il faut que je trouve sa fille. Et si je veux trouver sa fille, il faut que j'élimine Goliath. Et je pense que, intérieurement, David, La fille est allée par la foi, mais il a été aussi un petit peu la propre réponse à sa prière. Et moi, je m'en ai pris d'épouser Mika, la fille de Saül, parce qu'elle m'a posé pas mal d'histoires après. Mais vous voyez, combien parfois on peut être la propre réponse à notre prière. Et souvent, j'ai été surpris justement dans nos prières. Parce que souvent, quand on s'adresse à Dieu, eh bien, au lieu de faire part de nos besoins, de dire à Dieu, voilà, j'ai telle chose, je souffre de telle chose, eh bien, on dit, Seigneur, c'est ici, c'est ça, et puis c'est ici, et puis c'est ça, et puis c'est ici, dans la personne. Vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais entendu ce genre de prière? Peut-être le seul. En fait, c'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande carrément de lui adresser nos supplications, de lui adresser justement nos tristesses, de lui adresser justement nos besoins. Et Dieu est fidèle justement pour répondre à nos besoins et de la meilleure manière qu'il soit. Mais heureusement que nous avons un Dieu de grâce qui passe souvent au-dessus de nos imperfections et de nos prières imparfaites. Et qui répond à nos besoins, pas toujours comme on l'aurait voulu, mais qui les répond quand même. Et voyez, à travers tout ce passage que je vous ai montré dans le livre d'Abraham, eh bien, on se rend compte qu'Abraham n'est pas si loin de ça que nous. Que sa foi, eh bien, est une foi bien vacillante parfois, elle est une foi imparfaite, mais elle nous encourage aussi parce qu'on montre qu'on a un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction et un Dieu qui est toujours là prêt à nous encourager et à nous soutenir.